Bonjour et bon début de semaine à toute la compagnie des Radio Kati qui vous propose parole aux auditeurs. Réunis à Kinshasa la semaine dernière autour du ministre de l'Intérieur, les gouverneurs des provinces qui ont passé en revue la situation de fonctionnement de leurs provinces respectives estiment que ces dernières connaissent beaucoup de difficultés pour assurer leur développement. Parmi les raisons évoquées, on note l'insuffisance de la cagnotte des rétrocessions destinées à financer certaines initiatives à la base. Comment commentez-vous cette actualité et que proposez-vous pour faciliter aux provinces leur développement? 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission qui est réalisée par Julie Feza. Paul Badanyama assure la mise en onde. Pierrot et la Méjou vous la présente sous la supervision de Nicole Ngaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Méjou.
Comment assurer aux provinces leur développement, l'expérience du processus de décentralisation, la rétrocession, la retenue à la source? Voilà autant de questions qui se posent pour assurer aux provinces leur développement. Nous en parlons dans ce studio avec le professeur Stéphane Nzita. Professeur, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez beaucoup de casquettes, mais... L'expérience que vous avez dans les questions de développement, c'est aussi ce qui peut plus aider les auditeurs à comprendre. Comment expliquer que depuis 2006, la Constitution, la loi sur la libre administration des provinces, exprime clairement ce qui doit être fait pour assurer aux provinces leur développement. Et après autant d'années, les gouverneurs disent, mais bon, on ne peut pas y arriver. C'est difficile vraiment dans les conditions où nous travaillons d'arriver à assurer ce développement. Comment on peut expliquer ça?
C'est difficile d'expliquer. Il me semble que les peuples congolais réunis autour de la Constitution qu'ils ont accepté par référendum ont pensé que le moyen, l'unique moyen d'ailleurs d'arriver au développement, qui est le problème de base pour le Congo, était par la décentralisation afin que les Congolais puissent avoir accès à leur destin. Ils doivent avoir en main leur propre destin et pouvoir gérer leur vie. Mais alors, ce qui est étonnant, que ce qui était prévu dans la Constitution était qu'on puisse, comme vous l'avez dit, retenir à la source. Mais nous avons préféré que ce soit une rétrocession. C'est créer un problème parce qu'il faut d'abord collecter de l'argent dans un état et puis renvoyer ce transport-là de la place où l'argent est produit et là qu'on va renvoyer. Et quand on transporte le bien d'une place à une autre, ben, il y aura quelque chose qui va se faire tourner sur ce que c'est. Donc, le problème pour le moment, c'est que les problèmes chroniques en Afrique, qui est le développement, c'est il faut qu'on touche les systèmes et penser à l'information, que les gens comprennent ce qui se passe, et puis à la formation des gens, et pour donner aux gens l'accès au crédit.
Mais est-ce que le problème, il est seulement lié à l'argent? Le problème du bon, est-ce que c'est le problème seulement de cet argent, combien ça puisse être le 40%?
Je pense que le problème est plus que l'argent, mais l'argent est la clé de tout et l'argent répond à tout. Et s'il y a, une certaine résistance à laisser les provinces libre accès à ce qu'ils ont produit, comme prévu la Constitution, mais parce que d'une manière ou d'une autre, et quiconque contrôle l'argent contrôle un peuple. Donc je pense que c'est les problèmes du contrôle, les problèmes de l'argent, et c'est justement une démocratie en gestation, et c'est partie du processus de la démocratisation.
Mais est-ce que on peut dire que nous n'avons pas assez maîtrisé les rouages de cette décentralisation forte que nous avons souhaité avoir.
Nous avons maîtrisé, je pense que c'est question de la gouvernance, le problème en Afrique, c'est la gouvernance. Gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance sociale, gouvernance ainsi de suite. Donc, vous savez que le Congo a déjà expérimenté la décentralisation, l'existence dans les Kivu et Maniema a été créée. Donc, nous avons déjà un modèle, du moins, sur la démocratisation, la décentralisation qui était déjà faite. Alors, c'est qui est là la résistance, c'est justement les contrôles. Et quand on laisse que les provinces gèrent ce qu'ils génèrent, les 40% prévus, eh bien, ça donne moins de chances à ceux qui ont la chance d'utiliser le même montant, l'argent, si vous voulez, pour montrer que finalement nous avons réussi à répondre aux problèmes. Donc, vous pouvez vous asseoir, nous sommes là à résoudre vos problèmes. Donc, c'est question du contrôle, je pense, et je pense encore que c'est question d'une démocratie qui naît, et il faut maintenant arriver à informer la population des endroits, et ainsi de suite.
Mais dans ce débat autour de la retenue à la ressource des 40%, il y a même les provinces sont divisées. Parce que les gens estiment que non, c'est difficile. Il y a des provinces qui ont de faibles revenus. Si jamais ils pouvaient recourir à 40%, ils ne peuvent pas résoudre vraiment leurs problèmes. Et les autres pourront se développer plus que les autres. Et c'est pour ça que la Constitution a pensé à créer la Caisse nationale de péréquation pour faciliter à ces provinces de pouvoir se retrouver. Est-ce que c'est une question de dire qu'il y a des provinces qui sont pauvres et où il y a une question seulement de savoir comment on peut utiliser les ressources qu'on retient à la source soit qui sont rétrocédées?
Je pense que dire qu'il y a une province au Congo qui est pauvre, c'est un peu trop dire. Et avant qu'on parle aux 26 provinces, nous avons d'abord les provinces que nous avons maintenant. Mmh. Et chaque province a quelque chose de très important. D'abord, le Congo, c'est pas seulement qu'il est riche en minerais, il est aussi riche en terres arides, il est aussi riche en population, il est riche en tout. Ce qui manque, je pense, hormis la volonté politique et certainement l'avantage qu'on a quand on gère l'argent des autres, c'est toujours une bonne chose, parce que quand on gère pour les autres, eh bien, on peut se servir quand même, hein, vous comprenez. Donc, c'est d'abord qu'on n'a pas compris que pour les développements c'est comme le cœur humain, il a quatre poches. Et vous avez d'abord, comme je disais, les systèmes. Il faut qu'on change les systèmes. Le Congo, c'est un pays extrêmement vaste. Vous savez que le Congo, c'est un pays qui est 4 fois plus que la France, 33 fois plus que le Benelux, et une fois et demie plus que le Québec, et c'est le 12e état au monde large. Donc, il nous faut quand même comprendre qu'on ne peut pas le gérer et par proxy. L'exemple de l'Ebola nous montre d'abord que s'il y a l'argument que nous lançons que l'Ebola n'est pas un grand danger pour toute la République, c'est que là où il y a Ebola, ils sont tellement isolés qu'on ne peut pas, ça ne peut pas venir ici. Bon, si cela est vrai, et c'est vrai, ça veut dire que nous avons des populations très, très enclavées qui ne participent ni à la vie de la nation, ni encore au bonheur de la nation, ce qui veut dire qu'il y a un problème, c'est que tout Congolais est égal devant la loi, et maintenant, donc, il y a des Congolais qui sont moins que des Congolais. Donc, c'est aussi question des priorités. Je pense aussi que l'Afrique arrive aussi à trop concentrer sur les mauvaises priorités. Par exemple, vous avez maintenant les problèmes sérieux au Congo, les problèmes de Ebola. Mais quand nous avons aujourd'hui la rentrée parlementaire, pensez-vous que les parlementaires vont penser que le premier de la santé qui a montré des sérieuses lacunes depuis 95, puis 76, quand ça a commencé le problème. Jusqu'à présent, nous sommes à 7 épisodes de Ebola. Est-ce que vous pensez que la santé, c'est une priorité? Je ne pense pas. Et qu'est-ce que vous pensez que quand nous avons maintenant la question de toutes les entités territoriales qui sont gérées par des hommes non élus, alors qu'ils devaient être élus, est-ce que c'est la priorité? Non.
Donc, vous savez qu'il y a un problème aussi de la mauvaise, on peut dire, définition de problème qui se pose dans les entités à travers les provinces.
Je pense qu'il y a une mauvaise définition de la politique générale. Est-ce que nous arrivons, je pense que le problème, c'est celui d'une maladie que l'Afrique a en général, c'est d'avoir des mauvaises priorités. Quelle est la priorité aujourd'hui au Congo? Est-ce que c'est d'abord un pays qui a 9 voisins, parmi les pays les plus rares au monde, qui a beaucoup de voisins comme ça, avec des frontières très poreuses? Est-ce que c'est la question de la nationalité congolaise qui aujourd'hui, il y a encore un moratoire au Parlement? Est-ce la question de savoir si nous allons repenser la santé qui est un problème sérieux? Est-ce la question si nous allons voir comment justifier que depuis la collectivité locale, ou bien la chefferie, ou bien que voulez-vous, jusqu'aux communes, il n'y a pas un seul élu depuis la constitution.
Voilà.
Bon, alors, comment les gens, nous avons tout, c'est dangereux. Mais là, quand on s'est réunis, on pense que la question c'est quoi? On va commencer à voir est-ce qu'on peut changer la constitution ou pas, alors que, même s'il faut le faire, les sénateurs qui doivent le faire et ne sont pas pour ces mandats. Donc, c'est question
voilà, c'est question de priorité. Voilà. Comment aider le province à se développer? On va revenir à vous, le professeur, et à les auditeurs qui voudraient bien aussi intervenir, parce que cette question les concerne. Vous êtes à Déménage, Julien, et à Manono, d'émetteur 081-890-515, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
Julien, vous êtes à Guéména, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour à la radio, ça fait.
On vous écoute. Vous avez suivi les précisions avec notre invité. Des fois aussi, c'est la question des définitions des priorités. Hein. Vous êtes dans la province de l'Équateur. On parle des développements des provinces, comment y arriver. Quelle est votre lecture par rapport à ça, Julien?
Oui, on pouvait toutefois arriver à ce que notre invité vient de dire si on a la volonté politique. Prenons le cas de notre province, le province de l'Équateur. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, 2014, il n'y a rien qui s'est fait concernant la décentralisation.
Mm-hmm.
Prenons le cas de Norouté. Tout ce qui est Lizongo, Demena, Akula, Akula, Lissala, il n'y a pas la route. Et la population de ces contrées n'arrive pas à sentir ce qu'on appelle la décentralisation. Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que c'est la décentralisation. Parce que, à mon avis, on devait tout d'abord procéder à la sensibilisation, à vulgariser la décentralisation, à expliquer la population qu'est-ce qu'est la décentralisation. À ce moment, je crois qu'on arrivera à comprendre quelque chose. Je crois que nous avons été succédés par beaucoup de gouvernants. À ce compris, il n'y a rien qui se fait. Au moment où je vous parle, la route est Guéména à Koula. La route est fait couper en deux. Et ce qu'on dit, la rétrospection, tout consort. Et cet argent, ça s'est fait à quoi? La réunion qu'on est tenté d'aller faire là-bas à Kinshasa, moi, je peux dire que ce sont des réunions de luxe qui ne serviront rien au petit peu.
Voilà ma question. Voilà, merci beaucoup, Julien. Vous avez d'abord évoqué la question des volontés politiques. Vous dites que si la décentralisation n'a pas marché, il y a d'abord cette question des volontés politiques. Merci beaucoup. Mais vous pensez aussi qu'il y a un déficit. Les gens ne sont pas assez sensibilisés, informés sur la décentralisation. Elles-mêmes, les gens ne comprennent pas. Vous avez eu beaucoup de changements à la tête de la province de l'Équateur. Mais malheureusement, les routes ne sont pas réhabilitées. C'est-à-dire que les gens ont des problèmes, mais ils ne sentent pas l'effet de la décentralisation sur eux. Merci beaucoup, Julien. Vous êtes à Guéména, dans la province de l'Équateur. Demeteur, vous êtes à Manono, dans les Katanga. Bonjour.
Oui, bonjour au Pierron et la Mégie, bonjour à l'invité, bonjour à Radio Kaki. Et bien sûr, j'ai le souci d'intervenir aussi à cette belle émission. Ce que nous implorons, c'est quoi? Notre gouvernement provincial, je vais dire qu'il n'a pas la volonté, puisque nous avons vraiment des fortes revenus. Si vous essayez de remarquer, ici dans la province du Katanga, nous avons, je peux dire que nous avons beaucoup de richesses, mais seulement on ne sait pas comment les gérer. Voilà pourquoi, monsieur Pierrot, je vais dire que si notre nos dirigeants de cette province pourraient avoir la volonté, sinon on progresserait. Mais malheureusement, on n'a pas cette volonté. Voilà pourquoi les choses vont de mal en pis. Ça ne va pas toujours. Alors nous allons demander à ce que notre province puisse vraiment savoir comment gérer ces biens, parce que nous sommes vraiment des riches ici chez nous dans la province de Katanga. En ce qui concerne les états des routes, vous allez trouver que bien que nous sommes riches, même nos routes qui sont toujours dans des états délabrés. Alors vous avez remarqué que Pierrot, c'est vraiment déplorable.
Oui, Monsieur, si on vous a bien suivi, vous dites, vous avez raison, Julien qui a pensé à la question de la volonté politique, mais vous avez ajouté un autre mot, c'est la maîtrise de la gestion de ressources que vous avez dans la province. Malgré qu'il y a des potentialités, des richesses, mais vous vous rendez compte que les routes sont en mauvais état. Et là, vous évoquez la question de la maîtrise de la gestion des ressources en province. Merci beaucoup, Demeteur de Manono. Arsène, vous êtes à Tukuite dans la province de Bandundu. Bonjour, Arsène.
Bonjour, Monsieur Thérault.
La problématique des développements des provinces. Vous avez suivi à notre ami Julien Lupin, au-delà du problème de la volonté politique, il y a la question de l'ignorance même de la décentralisation, de ses principes. Moi, je peux le dire dans les deux sens, que ce soit pour la population, que ce soit pour les acteurs politiques. Mais il y a notre ami Demeter qui ajoute les problèmes de la maîtrise de la gestion de ressources. Qu'est-ce que vous pensez, vous, qui doit être fait entre tous ces points de vue pour assurer la province de Bandundu, par exemple, son développement?
Merci beaucoup pour la parole. Moi, je prendrais plutôt dans le sens de la généralité même de la gestion de la chose publique. Je crois que dans cette nation, nous devons avoir le sens même du travail. Le mot travail, qu'est-ce que ça veut dire? Nous nous sommes convenus, nous avons tracé des principes qu'on appelle la loi. Comment on devait faire marcher la nation? De deux, nous avons le bon sens de la vie humaine, du respect de l'humanité. C'est un grand principe qu'il faut maîtriser. Il y a ce qu'on appelle, je crois, la cupidité de nos dirigeants dans les affaires que j'appelle politiciennes, dans le spectacle. C'est ce qui nous envoie vers l'échec. Au lieu de voir la nation, l'intérêt de la nation, je crois que pour devenir riche, il faut d'abord être pauvre. Parce que de la pauvreté, vous comprendrez que je suis pauvre. Voilà les atouts que j'ai. Voilà les moyens que j'ai. Voilà les amis qui peuvent m'aider. Et vous mettez le sérieux dans le travail. C'est ce que notre gouvernement n'a pas su faire. Aujourd'hui, nous arrivons à un moment où les provinces ne savent même pas se définir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que mon prédécesseur appelle l'ignorance même de la décentralisation. Qu'est-ce qui nous a amené à la décentralisation? Pourquoi nous avons cherché ce mode de gestion de la nation? C'est parce qu'on trouvait que tout devait partir de la base. Le projet de société ne devait pas partir de Kinshasa pour aller en Kara chez moi. Non! Kara fait son projet de société. Et Bandundu fait son projet de société, et l'Équateur fait son projet. Chaque entité décentralisée doit faire son projet de société. C'est un projet de société qui sera soumis à l'Assemblée nationale et au Sénat. En fin de compte, on va établir le projet de la société congolaise tout entière. De là, nous devons avoir aussi des hommes capables, des hommes sérieux, qui se disent, je vais me battre pour l'intérêt de ma nation, voilà ce que je dois faire. Là où il y a des failles, l'opposition est là. Monsieur, vous allez un peu à côté, retournez en route. Aujourd'hui, à quoi nous assistons? Mais, selon moi, j'ai encore l'espoir qu'il y aura des Congolais qui ont l'esprit tranquille, qui ont vraiment l'amour de cette nation, qui prendront la charge de cette nation et les mèneront vers l'avant. Voilà ce que j'avais à dire, Théo.
Merci beaucoup, Arsène. Vous avez évoqué le problème de l'intérêt général, de la compréhension même de l'objectif pour lequel on a créé. On a choisi le mode de gestion fortement décentralisé et avec un peu plus d'intérêt national, on peut y arriver. Maître Mokili, vous gardez la ligne, vous êtes à Magui. Nous allons lire quelques commentaires des auditeurs et permettre à notre invité de déplacer un mot, Désiré Basaki de Bounia. Lui pense que le problème aujourd'hui, c'est un problème de souci de développement. Quand bien même les provinces reçoivent la commission de la rétrocession, c'est difficile qu'elle arrive aux entités territoriales décentralisées, c'est mal utilisé. Kinshasa ne rétrocède pas le montant qu'il faut, il n'y a pas de suivi, et dans ces conditions, ça sera difficile d'assurer le développement des provinces. Francis Mbo dit ceci, dans sa dimension, il est vrai impérieux de devoir matérialiser cette conception de l'administration de proximité. les autres pays que nous prenons pour modèle, ceux des soi-disant vieilles démocraties, appliquent la même vision, et bien des choses marchent. Chez nous, il y a des lois dans la Constitution, mais lesquelles ne sont pas appliquées. Les plaintes et demandes de nos gouverneurs sont à prendre au sérieux, car la RDC ne se réduit pas à une seule province. La RDC ne se réduit pas non plus à certaines villes. Dans certains coins, dans nos villages, presque tout est à refaire, car il n'y a rien encore. Pacifique Mahamba, la République doit être édifiée en fonction des différentes contributions provinciales. Mais aussi, le gouvernement central ne doit pas s'attribuer une part des lions. Il doit toujours respecter aussi ses propos et c'est remettre le 40% aux provinces. Il doit les faire, mais pas s'accaparer de tout ce que les provinces produisent. À Komboli, Jili Bassi Sylvain, selon moi, les provinces qui sont riches devraient aider celles qui sont pauvres afin qu'il y ait l'équilibre dans les cadres du développement. Et là, il revient à cette question de la Caisse nationale de péréquation. Professeur Stéphane Nzita, vous avez suivi nos auditeurs. J'ai dégagé trois préoccupations. D'abord, le problème de l'ignorance même de l'objectif pour lequel on a choisi le mode de décentralisation, ça fait. Il y a le problème de la volonté politique, mais il y a le problème aussi de la maîtrise des ressources, même de la gestion des ressources que nous avons en province, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Quel est votre point de vue par rapport à cette réaction des auditeurs?
Je suis vraiment fier de tout le monde qui a parlé, à partir de ceux qui ont parlé de Guémena, qui a parlé d'un problème très intéressant des routes. Les routes en RDC, la majorité des routes que nous connaissons sont détruites. Même celles qui sont réparées parfois, même à Kinshasa, ça ne prend pas deux ans, c'est parti. Donc ici, il y a question de démocratie. Il y a ceux qui parlent, ils parlent de pédagogie. On ne fait aucun effort pour expliquer au peuple congolais ce qu'il doit savoir, commençant par la Constitution même. Quels étaient les motifs de la Constitution? On a dit pourquoi le Congo a choisi d'être un État démocratique et pas un empire et pas un royaume. Il y avait des raisons, il y avait des prières même pour ça. Vous savez que le Congo a compris qu'il y avait quelqu'un à son passé qui s'est nommé empereur. Et il y avait et quelqu'un qui est rentré de la démocratie au royaume. On a dit non, nous serons une république. Maintenant, quand nous voulons même changer, on n'a jamais eu la chance d'expliquer au peuple ce que nous voulons faire. Alors, c'est quelque chose qui fait Kinshasa, et la majorité vous disent qu'ils ne connaissent même pas de quoi s'agit-il. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un sens d'irresponsabilité. C'est-à-dire que personne ne peut être pris comme responsable de ne pas avoir fait ce qu'il devait faire. Commençons par les poids et contre-poids qui existent. Une démocratie. Ce n'est pas que c'est de la volonté ou de charité. Ça, c'est la chose commune qui appartient à tous les Congolais. Donc, un Congolais gère quelque chose de public, il doit rendre compte. Mais ici, prenons les gens, les gouverneurs qui parlent, c'est une bonne chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les gouverneurs sont tous du même parti. Donc, vous avez un parti qui a presque tous les gouverneurs de la République. Viennent des mêmes partis. Eux-mêmes, dans leur temps, disent, écoutez, ça ne marche pas dans nos provinces. Mais c'est les mêmes groupes qui disent, non, nous devons aller maintenant à modifier la construction de choses. Alors que la première tâche, le cahier des charges n'est pas encore rempli. C'est là, justement, où il n'y a pas les poids et contre-poids. La démocratie exige les poids et les contre-poids. Quand il n'y a pas de poids contre poids, eh bien, personne n'a des comptes à rendre à quelqu'un. Vous avez maintenant des gens qui peuvent faire n'importe quoi, parce que qui est déjà sanctionné pour avoir volé? Mais qu'est-ce que nous avons? C'est des gens qui partent aux gens qui devaient avoir les propres biens. Ils quittent Kinshasa, ils vont faire des cadeaux dans les provinces. C'est comme si c'est leur charité. Mais un pays ne fonctionne pas par charité. Un pays fonctionne par responsabilité. Ils ont dit, écoutez, il manque encore, il y a l'esprit de spectacle. Eh bien, c'est certainement électoraliste. Nous faisons beaucoup de choses pour montrer que nous sommes bien. Mais le problème de l'Afrique n'est pas d'abord l'économie, c'est le développement. Nous avons besoin de ça. Pour qu'on se développe, j'insiste encore qu'il y a quatre facteurs importants. Il faut que le système que nous avons change. C'est-à-dire, il faut avoir une gouvernance politique, une gouvernance judiciaire, une gouvernance sociale, une gouvernance. qui doit changer. Eh bien, quand nous avons ce système qui change, au lieu qu'il y ait le monopole de tout et il y a la démocratie des bienfaiteurs, et de bienfaiteurs qui va vers les pauvres et qui donne comme Saint-Dominique, c'est pas ça que nous voulons. Nous avons besoin que les Congolais demandent le compte à ceux qui les gèrent, parce que c'est nous qui les avons choisis. Donc ici même, quand on parle de la pédagogie, il est important que les Congolais comprennent que c'est leur responsabilité d'exiger des gens qu'ils ont élus, de rendre compte. Alors, maintenant, nous devons voir, ils sont rentrés au Parlement. La question est celle-ci. Qu'est-ce qu'ils vont amener comme cahier de charge? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez des Congolais qui vont à l'école, la première fois à l'école, le premier jour à l'école, dans beaucoup de villages, beaucoup de coins de ce pays. La voie vers 3 km à pied, le premier jour pour aller à l'école. Ils doivent traverser des rivières. Alors que, qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse des écoles, qu'il s'agisse des hôpitaux, ce sont ces gens-là qui vivent là, qui veulent dire, on a besoin d'une route ici, on a besoin d'un pont là-bas, et ainsi de suite. Mais à partir de ce soir, on ne connaît pas. Ce n'est pas la mauvaise volonté, mais ils ne connaissent pas, le pays est gigantesque, et soyons honnêtes, on ne peut pas les gérer de Kinshasa. Donc, il est temps que nous exigeons de nos représentants de mettre les vraies priorités à table. Ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, ce n'est pas ce qui doit être fait, mais ce qu'ils n'ont pas encore fait. Donc, achevez d'abord les tâches qu'ils ont à achever, au lieu de nous embrouiller aux choses qui ne sont pas encore à l'ordre du jour. Et il faut que nous insistions maintenant que les parlementaires qui nous entendent aujourd'hui doivent comprendre que ils sont invités maintenant pas pour essayer de brouiller les cartes. C'est que nous sommes en train de dire, le travail qui est fait est en train de faire pleurer ce peuple. Que ce soit à Guémena, que ce soit dans les Bandundu, que ce soit partout où ici, les gens disent, écoutez, ça ne marche pas. Et même les gouverneurs ont pris une fuite à l'avant, en venant dire, voilà, oui, on ne reçoit pas. C'est les gens qui connaissent ça. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas comme ça qu'on peut gérer la chose publique. Nous devons respecter avec R majuscule la Constitution. C'est la Constitution qui constitue tout. Donc, quand on dit qu'il faut décentraliser, eh bien, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je pense que c'est pas question, je vois l'autre qui parle de la caisse de péréquation, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement central? Hormis les recettes nationales, le gouvernement central va travailler avec les organismes internationaux, les relations bilatérales, et ainsi de suite. C'est comme dans un pays décentralisé, il y aura une part pour le gouvernement central qui gère une bonne chose, à part les recettes, parce que trop d'impôts, tout l'impôt. Le peuple congolais est surtaxé. Il paye trop d'impôts, mais il ne voit pas les résultats. Donc, ce que nous demandons maintenant, c'est qu'il y ait un poids et un contrepoids. Nous ne voulons pas qu'il y ait un petit groupe qui gère toutes nos vies et qui décide même quand est-ce qu'il peut changer n'importe quoi.
Mais quand on revient à cette préoccupation sur la caisse des nationales de péréquation, c'est vrai qu'il y a le problème. Mais quand on regarde beaucoup de rapports, on s'est dit beaucoup de provinces ne reçoivent pas assez même de la rétrocession. Il y a des provinces, par exemple, qui doivent recevoir des 100 millions, elles reçoivent à peine 20 millions. Les gouvernements provinciaux aussi ne savent pas rétrocéder aux entités territoriales décentralisées. Et on est dans une situation où on voit ce qui se passe, mais on ne veut pas que ça change. Pendant qu'on s'est engagé à le faire changer pour que les populations puissent bénéficier de cela. Alors, comment le gouverneur et le gouvernement central pourront-ils harmoniser leur point de vue pour qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes? Parce que les problèmes, lui, les résident. Vous avez suivi les auditeurs, ils disent que nous avons besoin que ce soit dans notre milieu.
Je pense que pour que ça change, partout au monde, ce ne serait jamais la volonté des gouvernants. C'est les gouvernés qui doivent commencer à prendre la chose en main. Les Congolais doivent comprendre que ce pays nous appartient tous. Il n'appartient pas à un seul groupe. Ce pays, c'est notre destin commun. Donc, tout ce qui est au Congo appartient à tous les Congolais. Il est temps que les Congolais comprennent qu'il n'est pas acceptable qu'un petit groupe de gens prennent confiance que nous allons venir ensemble. Donc, ici, je dis ceci. Nous, s'ils ne peuvent pas gérer la rétrocession, s'ils avaient une caisse de péréquation, ils feraient quoi encore? Est-ce que qui est déjà condamné pour ne pas avoir fait ce qu'il devait faire? Voici ce que moi je pense. Les Chinois disent ceci. Là où il y a beaucoup d'argent en jeu, on doit avoir confiance en personne. Donc, ici, nous demandons d'abord les comptes.
Ce qui nous écœure, c'est quoi? On a considéré que quand un ministre entre en fonction, il déclare ses avoirs. Eh bien, nous n'avons pas nulle part la déclaration visible aux Congolais des avoirs des ministres en entrant pour qu'on sache là ils partent, qu'est-ce qu'il y a. Donc, nous avons ici une classe de gens qui est extrêmement protégée, alors que les Congolais moyens, les Congolais lambda, est en train de souffrir plus.
Mais professeur, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, on va suivre trois éditeurs qui sont en ligne, vous avez évoqué le problème de rendre compte. Quand on regarde beaucoup d'assemblées provinciales, vous l'avez dit, ils sont constitués d'une même obédience politique, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gouverneurs qui n'ont jamais été interpellés, les ministres n'ont jamais été interpellés. Alors, on évolue dans ça. Et comment la population va-t-elle se retrouver, d'autant plus que à la base, il n'y a jamais eu des élections pour savoir que les entités territoriales décentralisées sont gérées par les gens qui ont été élus, qui définissent leur stratégie. Et ils vont toujours continuer à assister à ce que les gouverneurs gèrent. Ils n'ont pas de comptes à rendre aux assemblées provinciales. Ils sont de la même obédience. Ils ne sont pas assez interpellés. Les quelques provinces où les gens sont mécontents, les gouverneurs sont partis, on a autant changé. Et la population, à la base, va toujours continuer à assister à ça.
Le seul moyen, c'est le travail de pédagogie. Ce que vous faites à Radio Okapi, que les peuples pourraient comprendre, c'est ce qu'il faut. Oui, certainement que à partir de la commune, personne n'est élu, ce sont des gens qui sont mis là-bas. Ben, si moi, je mets quelqu'un quelque part, ben, la personne doit être même reconnaissante envers moi. Comment il va me rendre la vie difficile? Mais en plus, il y a ceci. Même ceux qui sont élus à l'Assemblée nationale, un ministre, un député qui est élu peut devenir ministre demain, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les suppléants qui n'est pas connu par sa circonscription, qui devient parlementaire, et qui doit maintenant contrôler l'exécutif. Eh bien, si lui perdait son emploi, il rentre au Parlement sans se faire nulle part. C'est pourquoi nous disons ceci. Mettons les choses en ordre. Donc, ceci demande que, au lieu de commencer à embrouiller le peuple congolais, avec changement des conditions, pas de changement, achevons d'abord les cahiers des charges et donner à ces gens-ci. Et nous voulons maintenant qu'on rende compte de ce qui est là. Nous devons savoir combien d'argent de donner, et le Congo doit déjà combien d'argent, quelle est la dette actuelle nationale. Nous devons savoir ça. C'est ça qui
change. Voilà, on a des questions. C'est-à-dire qu'il faudrait définir les stratégies et les priorités pour permettre aux provinces de se retrouver. Nous avons en deuxième partie les pistes de solutions pour assurer vraiment un développement. Maître Mokili, vous êtes à Magui en province orientale. Mathieu est à Kananga, Désiré, Ali Bengué dans la province de l'Équateur. 081-890-6340, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Maître Mokili, vous êtes à Magui, en province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour Radio Okapi, bonjour aux auditeurs et bonjour à notre invité.
On vous avait suivi le cours de notre débat, cet échange, ce souci de voir nos provinces se développer. Alors, quelle pourrait être pour vous l'implication des institutions provinciales pour vous permettre vraiment d'arriver à ce développement?
Merci beaucoup Radio Okapi. D'après des jeux, je voudrais dire que les doléances des gouverneurs des provinces sont fondées sur les lois elles-mêmes. Notamment, il y a la Constitution, la loi sur la décentralisation et la loi sur la libre administration des provinces. Pour nous, il ne fallait même pas une réunion pour rappeler au gouvernement central le respect de cette Constitution et des autres lois de la République. Donc, la constitutionnalisation de l'environnement politique en République démocratique du Congo pose toujours problème. Selon la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et telle qu'on veut modifier aujourd'hui, il y a les 40% qui doivent rester pour les provinces, pour développer les provinces de la République démocratique du Congo. Le développement d'un pays peut être défini comme le fait de donner un minimum vital pour le bien-être socio-économique des peuples. Les gouverneurs des provinces doivent lutter pour cette amélioration des conditions de vie de leurs administrés. pour arriver à cela, il faut les moyens dans les caractères pour ça, et puis la volonté politique du gouvernement central. Ici, il y a des problèmes qui obstruent cet environnement politique dans le caractère pour ça, qui est resté est tabou, et le blocage des projets des provinces par le gouvernement de Kinshasa. Vous allez constater que, selon notre constitution, on l'a dit clairement qu'il y aura le caractère pour ça, mais depuis 2006 jusqu'aujourd'hui, on n'exécute pas ça, on ne respecte pas cette disposition légale à faveur des provinces. Le gouvernement central veut retenir les fonds pour ses intérêts égoïstes, pour faire souffrir les provinces. Deuxièmement, il y a un problème qui se pose aussi avec l'activité dans notre pays. Il y a le blocage des projets des gouverneurs des provinces. Pourquoi? Par exemple, si un gouverneur de province n'est pas de la famille politique du chef de l'État, tout ce qu'il fait, on bloque expressément pour le salir, pour qu'un jour on puisse le mettre même de côté, afin de faire rentrer quelqu'un de la famille politique du chef de l'État. C'est aussi un problème qui existe au niveau de nos provinces. Alors, la démocratie chez nous, en République démocratique du Congo, comme notre invité l'a dit, ça devait être une démocratie de bienfaiteurs, mais chez nous, malheureusement, la démocratie, c'est une démocratie de malfaiteurs. Elle peut être définie chez nous comme la démocratie comme le pouvoir des gouvernants, par les gouvernants et pour les gouvernants eux-mêmes. Les peuples des provinces sont en train de souffrir, sont victimes de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise volonté des pouvoirs de Kinshasa, de bloquer le bien-être de la population. Oui. Et donc, pour résoudre cette situation, il faut carrément qu'on puisse respecter les lois de la République.
Mm-hmm.
Si nous avions voté oui dans le référendum en 2006, c'était pour que cette loi-là soit d'application dans notre pays. Mais lorsqu'on n'applique pas cela, cela nous pousse à dire que peut-être il y a des constitutions, l'une qui est appliquée par le gouvernement central et l'autre qu'on nous a donné ici, que nous sommes en train de lire, qui restent comme des écrits sans être appliqués. Donc, ce sont des problèmes qui se posent très sérieusement à la République démocratique du Congo. Les lois sont faites pour être appliquées, mais on ne les applique pas. Ce qui pose problème,
c'est
qu'on y revient, qu'on applique les lois telles qu'elles.
Merci beaucoup, Maître Mokili, il faudrait respecter les lois. Mais à ce jour, je ne crois pas qu'il y ait une province qui est dirigée par une autre famille politique. Hein. Je crois presque que toutes les provinces sont dirigées par la majorité présidentielle. Vous avez évoqué le fait qu'on puisse bloquer le projet d'un gouverneur des provinces parce qu'il n'appartient pas à la famille politique du chef de l'État. Mais aujourd'hui, je crois bien que c'est la majorité qui dirige l'ensemble de provinces de la République démocratique du Congo. Mais vous souhaitez qu'on revienne tout simplement au respect des lois. Parce que cela a été voté par le référendum et promulgué, il faut que ce soit respecté. Et pour permettre aux provinces de pouvoir travailler. Merci. Mathieu, vous êtes à Tananga, au Kassai Occidental. Bonjour.
Oui. Merci bien pour la parole, monsieur le journaliste Thérault. C'est complètement à partir de Tananga. En ce qui me concerne d'abord, je présente vraiment mes regrets de voir que tout ce que nous avons voté, soi-disant député, soi-disant gouverneurs de l'opposition aujourd'hui sont derrière la majorité présidentielle. Première cause. Je ne vois pas comment les entités provinciaux peuvent répondre aux besoins prioritaires de leur population respective aussi longtemps que le gouvernement central ne respecte pas la loi sur l'argent de rétrocession promis aux provinces pour renforcer leur autonomie. C'est-à-dire, la loi numéro 08. Par 012 du 31 juillet 2008, portant la rétrocession du gouvernement central des recettes dites aux provinces de 40%. En fait, sens du mot, monsieur le journaliste, ces lois étaient du 22 juin 1996, loi numéro 96 par 002, sont violées par le gouvernement central qui ne respecte pas souvent les engagements pris avec les entités provinciales en matière de finances. Nul n'ignore que dans ce pays, certaines provinces se reconstruisent avec des moyens de bord, comme Katanga, mais d'autres, qui restent, ne peuvent survivre que si elles reçoivent cet argent-là. Nous regrettons du fait que le gouvernement central est devenu aujourd'hui un groupe de gens, des mêmes ethnies, des mêmes tribus et des mêmes familles politiques qui ne voient pas la population, la misère de la population.
Voilà, même Mathieu, voilà, vous avez raison de vous inquiéter. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que la constitution du gouvernement central soit mono-ethnique aujourd'hui. Je ne crois pas que c'est comme ça. Le gouvernement a été constitué d'une façon qui représente toutes les provinces comme le stipule la constitution. Mais du moins, si on revient dans votre argumentaire qui est important, vous dites que le problème, c'est que les lois qui ont été votées et promulguées ne sont pas respectées par le pouvoir central. Il y a des provinces qui n'ont pas assez d'activités, par exemple dans les domaines miniers, pour pouvoir à définancer leurs activités parce qu'ils n'ont pas assez de ressources, mais qui malheureusement ne reçoivent pas la cagnotte des rétrocessions. Et quand même elle est rétrocédée, c'est pas le en termes de pourcentage aujourd'hui, c'est jusqu'à 8%, jusqu'à 10%. On n'arrive pas vraiment à donner aux provinces la cagnotte qu'il faut pour assurer leur développement. Mais là, vous responsabilisez le gouvernement central qui doit faire respecter les lois et faciliter aux provinces leur travail. Merci beaucoup. Mathieu Désiré, vous êtes à Libengué, dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Moi, je vous remercie pour ce sujet génial. Mais pour moi, par rapport à mes auditeurs, je voudrais vraiment prendre la part du gouvernement central. Pierrot, si les autorités de notre pays ont voulu mettre un accent sur la décentralisation, c'est pour donner l'occasion aux autorités locales, aux provinciales, de faire de gros efforts pour leur autogestion. Au lieu de prendre de bonnes initiatives, ça fait de mobiliser, canaliser, maximiser ses recettes. Et bon, en premier lieu d'abord, parce qu'avant de changer à une quelconque rétrocession, ou bien de prétendre à une quelconque rétrocession qui peut activer le développement d'une province, il faut aussi beaucoup produire. Est-ce que ces provinces produisent beaucoup? Est-ce que les recettes qui émanent de textes légaux par rapport aux taxes et tout ça, est-ce que c'est bien canalisé, est-ce que c'est bien mobilisé, est-ce que ce qui arrive là-bas est colossal et consistant pour soutenir le développement? Bon, il y a peut-être ce qui se passe, parce que si on pense à la rétrocession, il faut beaucoup produire. Bon, il y a des fois, parfois, je prends l'exemple que nous vivons, il y a des recettes qui se volatilisent, au vu aussi de tout le monde, et si ça arrive, il y a une petite quantité, nous arrive au gouvernement central. Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que on ne peut pas tout gérer à partir de cette structure. Si les autorités ont voulu donner, que les habitants soient décentralisés, c'est pour que les responsables de ces habitants puissent prendre de bonnes initiatives pour mobiliser beaucoup de recettes, et à partir de recettes qu'on a fait mobiliser, le gouvernement central va tirer une partie et ces individus vont en profiter. Mais si on taxe et que les taxes vont dans les poches des individus, et qu'est-ce que bon, c'est qui est dans la poche des individus en promesse là? Est-ce que le gouvernement central est au courant? Voilà à peu près mon point de vue sur ce qui se passe, parce que si je prends l'exemple de notre province de l'Équateur, nous sommes très éloignés de Matadi. Nous pouvons prendre des initiatives et importer directement de l'Europe par rapport à notre province. Nous avons des entrées, par exemple, à Zongo, à Libengué, où nous avons l'accès sur Douala. On peut importer des choses directement et j'accueille des recettes de notre province, par exemple. Voilà peut-être mon point de vue sur ce sujet.
Merci beaucoup, Désiré. Là, vous avez dit, il ne faut pas seulement tirer sur le gouvernement central, mais il faut aussi avoir la responsabilité au niveau des provinces. Comment les recettes sont-elles mobilisées? Comment sont-elles canalisées? Est-ce que ces provinces ont toute la capacité de produire assez de recettes, contribuer à la caisse nationale pour qu'ils reçoivent la rétrocession à la hauteur de leur contribution? Qu'est-ce que les provinces aussi développent comme stratégie de développement, n'est-ce pas, des proximités, pour voir comment multiplier des ressources? Voilà autant de questions qu'il faut se poser par rapport à ce que les provinces font. Patrick, vous êtes à Lubumbashi, gardez la ligne. Professeur Stéphane, vous dites, j'ai réussi à ce que Désiré vient de dire tout à l'heure, au-delà de respect des lois, mais il y a aussi la capacité des managériales de province, n'est-ce pas, de pouvoir définir aussi la mobilisation des recettes, de savoir comment elles sont gérées, sont canalisées, mais notre capacité aussi en province de dire, voilà, entre les deux provinces, qu'est-ce que nous pouvons faire, comment on peut sortir des choix ce que nous avons et être capable de pouvoir assez mobiliser les recettes.
Pierrot, j'entends les gens parler, pour résumer, ils expriment le manque de confiance. Pourquoi il y a perte de confiance? Reconnaissons d'abord qu'il y a un problème économique mondial. Il y a une crise économique mondiale. Là, c'est évident. Mais également, il y a ici chez nous un problème où nous sommes parmi les rares pays du monde qu'après un grand conflit et la commission Vérité et Réconciliation a été presque nettoyée, oubliée par ce parlement qui s'est réuni. Et j'ai un appel aux députés qui m'écoutent. Que la priorité aujourd'hui, c'est justement cette commission-là, Vérité et Réconciliation. Le peuple n'a pas confiance. Mais là, avec ce décès de confiance, ça crée une autre chose. Les parlements provinciaux, qui les a élus? Pour quelle mandature? Ils vont maintenant élire les gouverneurs. Mais quel est leur mandat? C'est l'époque 2010. Donc, vous avez ici, nous marchons par la tête. Alors, les gens ont parlé encore, les plus derniers dit, voilà, est-ce qu'on peut tous produire? Mais oui. Et prenons la personne qui est dans la société même. Il est dans l'Équateur. Mais est-ce qu'il y a des routes là-bas? Il n'y a pas de routes. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Il n'y en a pas. Donc, nous devons savoir comment est-ce que les gens peuvent gérer leur vie au lieu d'attendre que tout vienne de Kinshasa. Mais encore, je pense qu'il y a trois problèmes essentiels pour nous sommes maintenant à chercher des pistes de solution. Mm-hmm. La première chose, la justice, c'est elle qui bâtit la nation. Quand un pays a perdu le bon sens, où les gens oublient l'équité qui juge la justice, eh bien, le danger devient grand. Donc, nous devons aller d'abord à la justice. Si les gouverneurs étaient vraiment à la recherche d'une solution, il devait commencer par consulter la Cour constitutionnelle pour savoir si ce qui est fait par le gouvernement central était vraiment dans la loi. Mais nous dire encore une autre déclaration de bonnes intentions, de lamentations, on en a déjà tout entendu, nous les connaissons déjà. Leur première demande devait être d'aller à la Cour constitutionnelle pour essayer de partager si ce qui est fait par l'autre, et pour savoir maintenant qui est responsable. Et pour que ça marche, il faut qu'on brise l'esprit d'impunité. Donc, je pense que, oui, les pleurs, lamentation des gouverneurs sont là. Mais écoutez, ils sont aussi bénéficiaires. Ils sont là, membres des mêmes groupes, et il paraît être un parlement qui est là, qui est hors mandat, et ainsi de suite, au niveau provincial. Donc, il y a des problèmes là-bas. Alors, quand je parle de ce déficit-là de légitimité, si vous voulez, et l'esprit d'impunité qu'il faut détruire, j'insiste à la réconciliation. Ce peuple saigne encore, les cicatrices sont encore là. Nous avons des problèmes sérieux. Vous regardez maintenant, nous voulons produire. Comment nous allons produire? Et les gens qui sont là, qui sont sans route, sans soins médicaux, les problèmes d'Ebola encore éclairent, donnent beaucoup de clarté sur ce qui passe dans notre pays. Donc, il nous faut être responsables. Donc, à mon avis, ce qu'ils disent tous est vrai, mais les provinces, toutes peuvent produire. Reconnaissez que tout axe produit par un enseignant qui vit dans un milieu quelconque, l'impôt là doit rester dans sa province. Tout litre d'essence qu'on achète dans une province, l'impôt doit rester dans la province. Donc les recettes sont là. La question est celle-ci. Est-ce qu'il y a l'hygiène sociale? La réponse est là, la question. Nous avons des gens qui peuvent tout faire. L'impunité a elle domicile chez nous. Donc, nous pensons que la justice est la clé. Parce que maintenant, les gens s'hasardent. Si vous voyez les jugements qui se passent dans nos tribunaux, dans nos cours de tribunaux, et c'est grave. Donc, les gens ont un comportement hasardeux et un dédain à la justice parce qu'ils savent qu'ils ne voient rien. Alors, en somme, ils ont dit, le problème encore, c'est que chez nous en Afrique, les gagnants prennent tout et les perdants perdent tout, même pas le droit d'avoir une autre opinion que celle de ceux qui gouvernent. Oh, voilà. Là, c'est le problème.
Nous allons écouter Patrick qui est à Lubumbashi et son Koa qui est à Kindu. On va revenir pour la conclusion, les problèmes importants. L'impunité, les gouverneurs sont en mesure déjà de consulter la Cour des comptes la Cour constitutionnelle pour savoir si effectivement ce que le gouvernement central fait d'abord est le respect de la loi, mais on doit aussi dénoncer, arriver à punir ceux qui utilisent mal le respect au niveau de province. Patrick, vous êtes à Lubumbashi, dans la province du Katanga, bonjour. Patrick, Patrick, là on a des petits soucis avec votre ligne à partir de Lubumbashi. ça crache beaucoup, on ne saura pas bien sûr votre intervention. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, voir si ça peut s'améliorer. En attendant que la réalisation voie comment améliorer la ligne de Patrick, on prend Sokoa qui est à Kindu dans la province de Maniema. Bonjour Sokoa.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
On entend déjà vers la fin de l'émission, vous avez suivi les uns et les autres, pourriez-vous toujours continuer à nous plaindre ou il faut passer à des actions concrètes pour vraiment assurer les changements au niveau de nos provinces.
Ok, j'espère toujours bref à mon intervention. Je réponds au nom de monsieur Efokoa Unimbe à Kindu. Vraiment, notre pays aime toujours beaucoup parler. Surtout quand on parle beaucoup français, mais la pratique de ces français-là n'atteigne pas à cet objectif-là. Je vous dis ici que Kindu est un sérieux problème. Parlons même de Kindu vers Pouya. Il n'y a pas de route. Depuis que Jean Grave a coupé ce pont-là au Lindi, jusqu'à maintenant, le gouvernement provincial et central ne font rien. C'est parce que c'est du soir qui vient, sans faire Kindu, c'est une forêt. Maniema, de Maniema. Ouais, c'est un sérieux problème. Si c'est le Kindu vers Katakokombe là-bas, il n'y a pas de route. Tout cela, il n'y a aucun suivi. Mais si il n'y a pas de développement dans notre province, derrière la Kindu, nous avons un sérieux problème. S'il s'agit, n'est-ce pas, donc de la nourriture. Toutes les choses sont trop chères ici à Kindu. On ne songe à rien. Mais jusque-là, on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement ou les autorités provinciales songent à ce problème-là. Ici à Kindu, il y a un sérieux problème. C'est parce que 90% des populations sont pauvres, des chômeurs. Nous avons même des diplômés, des licenciés, des docteurs, qui n'ont pas même des boulots. Qu'est-ce qu'on en songe? C'est parce que les points sont toujours négatifs.
Voilà. Si on vous suit, Soko, à vous, c'est un sentiment, vous êtes vraiment au bord de votre désespoir. Vous pensez qu'il y a tellement de problèmes à Kindu que vous sentez les autorités, le pouvoir public très éloigné de vous. Ceux qui sont à Kinshasa, des fois ils ne savent même pas ce qui se passe à Kindu, le problème des routes, le problème de pauvreté, tout ce problème qui se pose, mais vous ne voyez pas la réaction rapide au niveau de vos autorités pour résoudre le problème ni s'entretenir avec vous là-dessus. Merci beaucoup, Esokowa. Patrick de Lubumbashi, je ne sais pas si on peut avoir Patrick, c'est difficile. La ligne de Patrick, il y a Badi Moussa de Kinshasa qui nous a écrit. Ils font semblant d'évoquer la dite rétrocession pour développer les provinces pendant que tous les gouverneurs sont en train d'investir ici à Kinshasa et à l'étranger. Qu'est-ce qui les empêche même à titre personnel d'investir dans les provinces où ils sont mandatés? Que le gouvernement central prenne toutes les dispositions pour favoriser le développement dans les provinces si on n'aura qu'à satisfaire les appétits des mandataires. J'ignore Milambo, mais c'est aussi une forme de violation de la Constitution. Enfin, où allons-nous avec cette gouvernance? C'est une raison de plus pour que le régime change le gouvernement pour éviter ces comportements de nos dirigeants. Christopher Boulambo, qui a l'ombre de Bukavu, cette réunion de gouverneurs autour du ministre de l'Intérieur prouve en suffisance que le gouvernement central est théorique et pratique en matière de la rétrocession. Le gouvernement central doit reconnaître qu'il est dans l'obligation de rétrocéder aux provinces afin de permettre à ces dernières d'assurer leur propre développement. Nous avons aussi Glody Tamboué. Moi, je pense que le problème n'est pas seulement le gouvernement central qui bloque le développement des provinces, mais aussi les autorités provinciales. Prenons par exemple au Nord Kivu. À chaque fois qu'on augmente les taxes, mais on se demande maintenant d'où par cette contribution, parce qu'il n'y a aucune évolution côté développement. Presque 70% de la population du Nord Kivu, ce sont des agriculteurs, il n'y a pas une évolution à cause des taxes trop élevées. Il manque des routes, des trois. Nous avons les coltans, la cassiterite, à Bissier, qui peut développer la province sans l'appui du gouvernement central. Nous proposons à ce qu'il y ait des contrôles mensuels des recettes dans chacune des provinces pour que le gouvernement central appuie la suite. Et enfin, Serge Mibengue Berton, il faut une bonne transparence pour tout. Et s'il n'y a pas la volonté, on ne peut pas maximiser les recettes assurées, le développement. Voilà, c'est par là que nous terminons pour l'ensemble des auditeurs. Professeur, on a suivi les uns et les autres. Le cœur du problème, vous avez insisté. Il faudrait qu'on arrive à la conscience, qu'on voie ce qui est prioritaire, tout ça, pour permettre. Cela veut dire qu'il y a un creux, si on peut le dire, dans notre conception politique, dans notre discours politique par rapport à ce que nous devons faire sur terrain. Et en même temps, au-delà de tout ce que les auditeurs ont dit, tout ce que nous avons suivi, mais le problème est réel, les provinces, ils ont besoin d'arriver quand même à satisfaire le minimum, comme l'a dit un de nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir que le peuple demande maintenant une certaine responsabilité. Donc, au niveau des gestionnaires, les moyens, l'unique moyen d'ailleurs, c'est l'audit. Donc, le peuple demande l'audit de toutes les recettes des provinces durant les mandatures qu'ils ont eues. C'est ce qu'il demande au Parlement, quand il va s'asseoir, on n'a pas besoin de distraction. Nous demandons l'audit de chaque province, les recettes et l'argent rétrocédé, pour qu'on sache exactement qui est coupable de quoi. Et de la justice, de s'en occuper déjà, parce que c'est, il y a flagrance, hein. Les gens vous disent qu'il n'y a pas de route. Les gens vous disent qu'il n'y a pas d'école. Les gens vous disent qu'il n'y a pas d'hôpital. Et nous savons déjà qu'il y a des déficits. Donc, l'audit est exigé. Deuxièmement, nous demandons que nous puissions mettre désormais les priorités en ordre. Nous avons eu trop de mauvaises priorités. Et nous demandons qu'on puisse voir que nous puissions mettre la commission Vérité et Réconciliation pour réconcilier ce peuple. Donc, avant tout, après tout et pour tout, nous voulons être une nation et une nation où tout le monde est égal devant la loi et bénéficie de ce que Dieu a donné à ce pays.
Merci beaucoup, professeur Stéphane Nzita. Merci d'avoir répondu aux questions de préoccupation des auditeurs. Hein. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes spécialiste en question de développement, mais vous êtes également chancelier recteur de l'Université Chrétienne Internationale. Je reviens, c'est ça, c'est autant des casquettes que vous avez. Merci en tout cas de vous être déplacé pour le studio des Radio Capi. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet échange autour du développement de nos provinces.
Allô? 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 Il ne répond pas?
On se retrouve demain mardi à 11h30 heure de Kinshasa pour un autre numéro des paroles aux auditeurs. Cette émission est sur www.radiocapi.net. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire l'émission. Julie César a assuré la réalisation pour le Badianama, la mise en nom de Piro et la Meiji, vous l'a présenté. Ben Kabamba, Nicole Ngaka, ont assuré la supervision de cette émission que vous allez aussi retrouver en rediffusion à 20h30 heure de Kinshasa. Au revoir.